Que chacun de vous se sente ici comme chez lui, dans cette maison où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour l'adorer, lui le Dieu de tout et de tous. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce et la paix nous sont données en Dieu, notre Père. Présentons-nous ensemble devant le Seigneur, notre Dieu, avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Que ton chemin, Seigneur, soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Seigneur, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde vers plus de justice. Tu gouvernes les peuples avec bonté, tu conseilles les nations. Que tous les peuples, Seigneur, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre donne son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière lui rende grâce. Chantons le psaume 16 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 4. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il exauce tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez l'amour. Chantons le spontané. Avec ce psaume de David, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour vivre. Écoute, Éternel, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Éternel, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton visage avec colère, tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, Éternel, conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage, espère l'Éternel. Chantons la prière de repentance. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute : aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour ceux qui l'entendent. Chantons notre reconnaissance au Seigneur. Je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit. Il est amour et vérité. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Seigneur, augmente continuellement la confiance que j'ai en toi. Chantons la confession de foi. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité.
Vous pouvez. Donc un grand merci à David Leduc, grande joie de t'avoir parmi nous depuis la rentrée. Donc c'est vrai que tu fais le catéchisme des enfants, et puis tu es très précieux comme philosophe et comme théologien auprès du Fonds Ricoeur. Donc... C'est vrai, c'est précieux de t'avoir et je me réjouis vivement donc de recevoir tout à l'heure la prédication que tu nous as préparée pour entendre la parole que tu as eu à cœur de nous apporter à nous pour aujourd'hui. Et puis bienvenue à Margot, petite fille, bienvenue à ses parents Benoît et Élise Marion, bienvenue à son parrain Jean-Christophe Calibre et à sa marraine Marion Doc. Alors ils ont demandé le baptême de Margot afin qu'elle reçoive ce signe de la grâce de Dieu et qu'elle soit accueillie dans l'Église de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que l'Église de Jésus-Christ, elle est bien plus large que l'Église de l'Oratoire qui nous unit ce matin. C'est la large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ, donc dans l'Église protestante, dans l'Église catholique, puisque ce baptême est un baptême avant tout chrétien, même s'il est fait, bien sûr, dans une Église protestante aujourd'hui, ce matin. Alors le baptême de cette petite fille qui ne connaît pas encore le nom de Dieu, ça nous rappelle vraiment qu'avant même que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Avant que nous puissions lui répondre et l'appeler par son nom, déjà lui, il nous appelle par notre nom. Il nous appelle du nom de son enfant bien-aimé. Et c'est ce nom qui est donné à Margot ce matin. Et le baptême est le signe de ce Dieu qui, en Jésus-Christ, donc, vient à notre rencontre. Nous rendons grâce à Dieu. C'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô notre Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence, tes bienfaits et ta lumière sur notre chemin. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée et qu'il a montrée par sa vie. Bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour et de ta lumière que tu offres gratuitement et sans condition à tout être. Aujourd'hui, notre Dieu, nous te présentons Margot pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour tout cela, pour tous ces dons, eh bien nous te célébrons, Seigneur. Amen. Comme Dieu a dit au Christ, baptisé lui-même dans le Jourdain, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, Dieu déclare à Margot, « Tu es ma fille. » Tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom et je t'aime d'un amour éternel. Et comme l'eau va couler sur le front de Margot, certainement cette parole est vraie. Dieu nous a aimés le premier. Le baptême est le signe. C'est Dieu qui engage sa parole dans ce geste. Ainsi donc, parents, parrain et marraine, Margot, par son baptême, sera chez elle, dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle, mais bien entendu, aucune contrainte ne l'y retiendra. Si jamais elle venait à s'en séparer, bien sa place y resterait toujours marquée, toujours prête pour la recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'instruirez, vous la soutiendrez, vous l'accompagnerez, vous l'aimerez, afin qu'elle ait une chance de parvenir elle-même à la foi et qu'elle puisse y répondre un jour, si elle le désire, en toute liberté, répondre à la grâce de son baptême, en prenant part donc à cette vie de l'Église, en portant une part de son témoignage et de son service. Donc c'est là votre vocation d'entourer Margot. Ça sera vraiment aussi pour vous une joie, j'en suis persuadé. Alors vous pouvez vous rassembler autour de ce baptistère pour que Margot soit baptisée et puis ensuite pour pouvoir rendre donc un peu le témoignage de ce que vous voulez lui apporter. Margot, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Margot, le Seigneur tourne son visage vers toi, il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Parents, parrains et marraines, vous pouvez prendre maintenant les engagements que l'Église vous propose en cohérence avec ce baptême, mais c'est pour marquer que le baptême est plus un point de départ sur un chemin de foi. Vous voulez faire connaître à Margot l'enseignement chrétien contenu dans la Bible pour qu'elle puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu, grâce attestée par son baptême, et qu'elle puisse devenir un jour, en connaissance de cause, et si elle le désire, devenir une disciple de Jésus-Christ. Et donc vous pourrez la confier à l'Église pour qu'elle prépare Margot avec vous, à confesser la foi de l'Église universelle qui rassemble tous les chrétiens dans cette confession de foi la plus rassemblée possible, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous désirez ?
Oui.
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 Dieu vous donnera la force et la joie donc d'avancer sur ce chemin. Alors vous avez préparé quelques mots pour dire eh bien, votre accueil, votre joie, votre louange devant cette magnifique personne qui est déjà Margot.
Margot, tu es née dans notre foyer. À ta naissance, nous t'avons accueillie dans notre maison et te l'avons fait visiter, mais c'était en fait déjà ta maison. Même avant que tu arrives, ton petit lit t'attendait déjà, même avant que tu sois née, avant que tu sois arrivée. Nous avons demandé le baptême pour toi, pour t'accueillir dans l'Église et dans la famille des chrétiens.
Il y a déjà une place pour toi ici aussi. Le Seigneur t'y accueille comme son enfant et veillera toujours sur toi, de la même manière que nous, tes parents, serons toujours là pour toi, pour te protéger, pour t'entourer de notre amour et t'accompagner dans la découverte de Dieu.
Vous avez préparé une prière donc, qui va être dite par le parrain et la marraine.
Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Margot, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle, pour tous les membres de sa famille, pour son parrain et sa marraine, et pour toute la communauté des chrétiens.
Donne à ses parents et à tous ceux qui auront à prendre soin d'elle, de lui révéler ton amour et de la préparer à te suivre un jour dans la reconnaissance et la joie. Veille sur Margot, sois pour elle un repère et un guide. Nous te rendons grâce pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est beau de voir toute la famille rassemblée autour de Margot avec les parents, parrain, marraine, les amis. Puis il y a aussi même jusqu'à l'arrière-grand-mère donc de Margot qui est là. Et c'est vrai que c'est une chance de vivre maintenant en pleine forme, assez âgée, et qu'il puisse y avoir comme ça 4-5 générations pour entourer la personne et pour transmettre quelque chose qui vient avec une sagesse de la vie. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis nous rassemblons tous dans la prière pour Margot en chantant le cantique numéro 204. Seigneur, dirige et sanctifie. Pour que voilà, la vie de Margot puisse être vraiment sous le signe de cet amour de Dieu. Un grand merci.
Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 5e, les 12 premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Exprimons notre reconnaissance au Seigneur en chantant le psaume 47 tiré du psautier français, les versets 1, 2 et 3. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, élevés, guéris et ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit. pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais mettre ma première prédication dans ce temple de l'oratoire du Louvre sous le signe de l'horizon du bonheur que ouvre le discours des béatitudes de Jésus sur le mont des Oliviers, tel qu'il se donne à entendre dans l'évangile de Matthieu. Ce qui m'intéresse dans cette parole des béatitudes, à la manière de Dietrich Bonhoeffer, c'est la centralité christologique qu'elle instaure entre Dieu, soi-même et autrui dans une perception poétique de l'accomplissement du royaume. Que nous donne à voir, à comprendre et à vivre dans la foi ce poème du bonheur. Si c'est un poème du bonheur adressé par Jésus à la foule et aux disciples sous le signe du royaume de Dieu, cela veut alors dire qu'il ne prétend pas expliquer l'avènement du royaume, mais nous fait découvrir la discrétion de la puissance d'accomplissement de cette promesse qui n'est pas un déni du malheur. C'est en ce sens que ce poème évangélique du bonheur est une déclamation paradoxale de l'aveu du malheur et de la promesse du bonheur. Pour être plus précis, c'est dans l'exclamation du présent accompli du bonheur, selon la formule « Heureux sois-tu » que l'aveu du malheur est montré en creux. Bonheur à toi qui te reconnais pauvre en esprit, le royaume des cieux est à toi. Bonheur à toi qui pleures maintenant, tu seras consolé. L'aveu du malheur est implicite et ne saurait donc être pensé comme une opposition équivalente à l'ampleur de la promesse. Celle-ci est une parole qui donne à voir l'invisible et à écouter l'inaudible. Elle nous dit ce que nous ne saurions ni voir ni écouter si ce poème évangélique du bonheur ne l'avait manifesté et rendu audible pour nous. Pour notre méditation, je suggère d'esquisser très succinctement quatre points. Le premier point que j'aimerais suggérer, c'est de nous faire voir cet invisible et de nous faire écouter c'est inaudible. Notre écoute de ce poème évangélique est grosse du royaume. L'écoute ne nous élève à ce que Paul Ricoeur appelle dans sa méditation sur les béatitudes la hauteur de l'ouvert de ce royaume, que si elle se défait de mes habitudes théologiques, de mes prédilections, de mes ressentiments, de mes souvenirs, de mes rêves et de mes illusions, puisque ceux-ci n'offrent pas toujours le lieu pour accueillir ce qui me vient de ce poème évangélique comme parole de Dieu. Écouter ce poème évangélique, c'est écouter ce à quoi, de Dieu, du monde et de l'homme, il répond, appelle et requiert. En écoutant ainsi ce poème évangélique, j'écoute d'abord en imagination Dieu qui vient dans la promesse. J'aperçois ensuite, au sens métaphorique, l'homme ou la femme du futur, c'est-à-dire le juste, que je suis appelé à être dans le présent de mon agir. Et je découvre enfin le monde de possible en attente de ma réponse pour sa transformation. Car la transformation de chaque personne est un fragment de monde transformé. Voilà l'invisible, voilà l'inaudible de ce poème évangélique des béatitudes, voilà ce qui est rendu manifeste par cette proclamation de Jésus. Et cette proclamation est en attente de notre réponse. Ce poème s'impose à mon écoute. Il nous saisit malgré nous. Il montre comment le monde va. Il révèle la joie, la souffrance, l'horreur, la surprise auxquelles je dois pouvoir répondre sans qu'il ne me dise proprement rien de ce qu'il faut faire afin que ma liberté d'initiative soit responsable et créatrice. Voilà que l'écoute nous advient comme une béatitude de la pauvreté en esprit, du manque de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui donne en possession le royaume des cieux, parce qu'elle montre ce qui a fait effraction en moi en me prenant au dépourvu de ma compréhension de la foi. C'est de cette manière que je peux écouter, me laisser ébranler et transformer par ce qui m'advient nouvellement par l'écoute de ce poème évangélique du bonheur, afin de rendre vive ma méditation des béatitudes, mon expérience et mon attention au cours des événements de la vie qui me mettent en situation de pauvreté, de souffrance, de deuil, de manque, de mal moral et d'injustice. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais montrer de ce poème évangélique qui nous fait voir l'invisible, qui nous fait entendre l'inaudible. J'en viens maintenant au deuxième point de notre méditation en soulignant ce paradoxe dans lequel Jésus nous montre l'ampleur de la promesse d'une part et d'autre part, il nous montre aussi la finitude du malheur. Ce poème évangélique nous montre deux choses. Premièrement, la déclamation paradoxale montre les figures du bonheur suivant l'ampleur de la promesse, tout en indiquant en creux les figures du malheur auxquelles le disciple déclaré heureux est confronté. Les figures du bonheur présent sont indiquées par l'ampleur de la promesse à travers les formules suivantes. Le royaume des cieux est à eux. Ils recevront la terre que Dieu a promise. Ils seront consolés. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils possèdent le royaume. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. La promesse caractérise des figures du bonheur présent qui répondent respectivement à des situations de malheur aussi présents. Les pauvres en esprit, les doux, les affligés, les affamés et les assoiffés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les insultés, les persécutés, les calomniés à cause du Christ. Vient en tête des situations de malheur la pauvreté en esprit qui indique un trait fondamental de notre condition humaine ou sociale, que les éthiques du Caire appellent aujourd'hui la fragilité humaine ou la vulnérabilité sociale. Notre contexte contemporain rend difficile la défense des spiritualités du détachement ou du renoncement comme témoignage de la pauvreté. Comment renoncer à soi ou se détacher de soi lorsqu'on est en situation d'incapacité, en situation de ne pas pouvoir agir? Le renoncement à soi, tant revendiqué par des interprétations bourgeoises des béatitudes, n'est-il pas une illusion pour ces personnes qui sont encore conscientes d'elles-mêmes et de leur capacité à renoncer? Elles sont encore conscientes de leur pouvoir de choisir. Les véritables pauvres en esprit se trouvent dans des situations de fait où ils ont perdu le pouvoir de décider pour quoi que ce soit de leur vie et se reconnaissent simplement comme fragiles et vulnérables. Les doux ne souffrent-ils pas du spectacle de la violence à laquelle ils ont renoncé pour être plus vulnérables parce que sans défense? Les larmes de deuil ou de souffrance et le désir d'être juste exprimé par la soif et la faim du corps, ne sont-ils pas autant d'indices cruels de manque? Les miséricordieux ne sont-ils pas démunis devant la puissance de la justice violente dissimulant l'esprit de vengeance? Les cœurs purs ne font-ils pas partie de la condition humaine livrée à la fragilité comme possibilité du mal moral inscrite en son intime, livré aux troubles des désirs et des passions de l'estime de soi, des passions de domination des autres et des passions de l'envie de posséder plus que les autres? Que peuvent les artisans de paix devant l'échec des arbitrages et des réconciliations entre des parties rivales? Nous voyons en cela, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la série des malheurs ne se poursuit-il pas avec l'agression que l'homme fait à l'homme sous les formes de la persécution, de l'insulte et de la calomnie? La deuxième chose que ce poème évangélique nous montre, c'est que derrière cette figure de rhétorique de renversement des destins, il y a une proclamation comme retournement de la finitude du malheur en force d'accomplissement de la promesse du bonheur. Ce renversement des destins se trouve souvent exprimé par des formulations étonnantes, comme « les premiers seront les derniers », « qui veut sauver sa vie la perdra », et par d'autres paraboles de la multiplication et de la centuplication. C'est ce que semble révéler l'éclatement verbal qui accompagne le souhait du bonheur à travers des verbes à la voix active dans le texte de l'évangile de Matthieu. Ils recevront la terre que Dieu a promise, ils obtiendront la miséricorde, ils verront Dieu. Ces verbes sont tantôt conjugués au futur et conjugués au présent, comme pour marquer que ce bonheur dont il est question est à la fois un bonheur présent et un bonheur tourné vers le futur. D'autres verbes dans cet évangile de Matthieu sont conjugués à la voix passive. Ils seront consolés, rassasiés, appelés fils de Dieu. Je souligne la présence de ces verbes conjugués à la voix passive et à la voix active pour montrer que c'est dans cette expérience du pâtir et de l'agir que nous faisons nous aussi l'expérience de pouvoir découvrir ce que montre Jésus dans cette promesse du bonheur. Et ce qui nous est montré, nous ne pouvons le recevoir que dans l'hospitalité de l'écoute de la prédication du royaume dans le ministère de Jésus. Cette déclamation paradoxale de l'aveu du malheur et de la promesse du bonheur porte en elle une tension temporelle qui nous montre de quelle manière nous sommes appelés à vivre de cette parole de Dieu. Cette promesse n'exerce ainsi sa puissance de transformation de nos vies que parce que c'est une parole qui échappe à toute vision et à toute prévision. Si la promesse du Dieu qui vient dans le discours des Béatitudes n'était pas de l'ordre de l'impossible, elle n'en serait pas une promesse véritable parce qu'elle serait prévisible. Car une promesse prévisible est superflue. La promesse de bonheur en ce sens est de l'ordre d'un événement imprévisible comme celui d'une rencontre amoureuse ou de la naissance d'un enfant. Cette promesse bouleverse nos attentes et nos probabilités et se fraye en nous son propre chemin d'accomplissement en faisant naître en nous l'espérance et la confiance. La promesse de bonheur porte en son présent une conscience obscure du malheur. Elle ne trouve sa seule clarté future que dans le prophétisme du témoignage, à travers la prière, la prédication et l'action. Les échelles du malheur que nous avons écoutées ne doivent pas masquer l'ampleur de la promesse du bonheur, dont elle ne saurait être un opposé équivalent. Donc il n'y a pas à mettre ici les promesses du bonheur et l'aveu du malheur au même niveau. Et Jésus, en faisant le décalage entre la promesse du bonheur et l'aveu du malheur, montre en cela que ces deux aspects de notre expérience de la vie, de notre condition humaine, ne sont pas au même rang. On voit bien dans le texte que l'aveu du malheur est bien souligné comme quelque chose que nous vivons uniquement dans le présent de notre condition humaine, mais ces figures du malheur n'ont pas d'avenir. Par contre, la promesse du bonheur est du présent et du futur. Et en toute rigueur, on peut dire que la promesse de ce poème ne promet pas le futur du bonheur, mais la libération future du malheur, dans la mesure où le présent actuel est déjà un présent de bonheur donné par Dieu. Ainsi, la tension temporelle de la promesse est prise entre le pôle du présent total du bonheur et le pôle du futur de la libération du malheur. C'est même cet écart à l'intérieur de la promesse qui préserve l'explosion verbale de la force d'accomplissement du bonheur de se transformer en délit mystique de joie. Le présent du bonheur est à la fois joie de vivre dans le secret de la présence de Dieu et espérance d'être délivré du malheur présent. Le bonheur du juste est ainsi pris dans cette tension temporelle de la promesse du royaume. J'en viens à la dernière partie de ma prédication qui porte sur la figure du juste qui se manifeste dans le cours de l'action et dans la prière. Les exégètes sont unanimes sur le fait que le thème de la justice pour le royaume des cieux convient à l'ensemble du sermon sur la montagne et qu'il structure l'ensemble des béatitudes. Mais force est de constater que les béatitudes sont souvent analysées de manière dispersée. Je suggère de conclure ma prédication en la centrant sur la béatitude du juste, que je considère comme la béatitude des béatitudes. Car elle montre la structure fondamentale de la vie du disciple, dans la mesure où il s'agit du désir de vivre comme Dieu le demande en se révélant. Autrement dit, il s'agit de l'accord entre le désir d'être avec autrui et le sens de la présence de Dieu dans l'amour. et l'évangile de Matthieu explicite cette figure du juste au chapitre 6e avec trois exemples dans les 18 premiers versets. Le juste sait habiter la distance qu'il y a entre lui et Dieu, entre lui et autrui, et aussi dans la proximité de son corps. Le juste, dans sa bienfaisance à l'égard de son prochain, laisse son action ouverte à la gratuité et à la reconnaissance de la présence discrète de Dieu. Il en est de même pour la prière du juste, ouverte à la présence discrète de Dieu et à sa reconnaissance. Le rapport ascétique du juste à son corps apparaît non sous l'obscurité de la tristesse, mais sous le jour de la joie et de la liberté, ouverte à la foi, à la présence discrète de Dieu et à sa reconnaissance. Et en ce sens, le surcroît du bonheur comme donation et don transparaît dans le rapport du juste à Dieu, à autrui et à son corps. Et par le biais de cette dimension de la vie du juste, la béatitude de la pauvreté en esprit peut être réinterprétée comme un problème de la fragilité et de la vulnérabilité. Faut-il pour cette raison que nous puissions nous comprendre uniquement dans le conflit de l'autonomie et de l'hétéronomie, de la liberté et de la dépendance à l'égard de Dieu et d'autrui? Je crois que le plus important dans le bonheur du juste, c'est son désir d'être à Dieu et pour autrui, impliqué différemment dans les différentes béatitudes. Cette attitude du juste est impliquée par la douceur, nourrie de l'intérieur par le courage et la patience face à l'adversité violente. Elle est aussi impliquée par la souffrance dans l'attente d'une libération ultérieure. Elle est aussi impliquée pour un cœur juste, déchiré par le désir d'infinitude et l'angoisse de finitude. Cette plénitude du bonheur s'exprime aussi dans la pacification des conflits, demandant à clarifier la vérité, la justice et le pardon. Et en ce sens, c'est avec tout notre corps que nous écoutons ce poème des béatitudes et que nous éprouvons aussi ce qu'il dit de nous en rapport avec les événements de notre vie. Le juste est libre de l'avenir parce que sa vie est achevée et accomplie. Il a un futur car son action est pleine de promesses d'avenir puisqu'il est tout entier à soi-même, advenu à un présent heureux. Et ici, je suis tenté de rapprocher cette promesse des béatitudes du bon moment grec que les Grecs appellent le kairia, c'est-à-dire agir comme il faut au moment où il le faut et être comme il faut au moment où il le faut. Le désir d'être du bonheur évangélique échappe ainsi à la nostalgie du passé et à l'inquiétude pour l'avenir. Cette plénitude dont nous parle Jésus est ouverte, elle est en elle-même libérale. Je vise au plein jour de l'aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine, nous dit-il. Le bonheur est libre du temps et de l'éternité. C'est pourquoi il n'est ni quête ni conquête, mais il est gratuité du surcroît de la foi. Il est la bienveillance amoureuse à l'égard du présent des uns et des autres. Louons le Seigneur en chantant le cantique 298, les stiques 1, 2 et 5.
Vous pouvez prendre place. Grand merci donc à David Leduc pour cette prédication. Alors l'année prochaine, il sera en, on dit un master pro en fait, en théologie protestante, donc à l'Institut protestant de théologie, pour être pasteur donc l'année suivante. Et un grand merci à toute l'équipe de la vente de charité, la vente de l'oratoire, donc qui vendredi soir et puis samedi toute la journée nous a donné un moment avec beaucoup de monde, un moment très sympa et avec donc un produit pour les plus démunis par le biais de l'entraide de l'oratoire. Alors cette vente n'est pas tout à fait finie car il y a encore quelques petites choses qui sont dans la grande sacristie, donc vous pouvez sortir par là pour voir ce qui reste. Et puis il y a le repas, donc il y a un couscous carrément royal qui nous attend, donc ceux qui n'auraient pas encore donc leur ticket de repas donc peuvent passer par le stand de librairie pour donc acheter des au profit de l'entraide toujours donc des tickets repas pour le couscous qui est en face. Un bulletin de l'oratoire, donc ça paraît trimestriellement, ça s'appelle la feuille rose, il y en a un qui est en cours d'impression, si vous désirez le recevoir, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles qui sont à la sortie. Et puis aussi, c'est vrai qu'on peut être membre de l'oratoire, c'est-à-dire vraiment se sentir comme faisant partie de cette église, participer très régulièrement sans être membre de l'association. C'est vrai qu'il y a un peu une question donc administrative, on peut demander à s'inscrire. Il faut se demander à s'inscrire pour être membre de l'association, participer aux assemblées générales. Donc là aussi, il y a des bulletins qui sont à la sortie pour s'inscrire comme membre. Si vous désirez faire partie du gouvernement de l'Église, donc donner votre avis aux assemblées générales. Demain soir à 20h, il y a l'approfondissement théologique avec le théologien Rudolf Bultmann qui sera étudié. Mardi après-midi à 14h30, il y a l'étude biblique avec James sur toujours le livre d'Ézéchiel. Donc là, le thème de cet après-midi, c'est la responsabilité personnelle avec Ézéchiel 14, Ézéchiel 18. Mercredi 4 décembre à 15h30, il y a le groupe de grecs des confirmés, grecs bibliques. Samedi 7 décembre à 10h, il y a l'hébreu biblique avec mon cher collègue Gilles Castelnau. Et puis dimanche prochain, ben, donc, il y a le culte. Et puis donc, il y a une annonce des routiers qui, comme l'an dernier, nous proposent un service de sapin de Noël. Donc, ils ont le projet de partir à Madagascar pour un voyage humanitaire. Et puis donc, c'est en même temps un service qu'ils nous proposent. Et en même temps, c'est voilà, pour financer leur projet humanitaire.
Donc voilà, en fait, le principe est assez simple. Vous pouvez nous commander des sapins et ils seront livrés chez vous directement la semaine prochaine, à domicile, si vous nous laissez vos coordonnées. Et voilà, sur des listes avec des très belles photos. Et donc c'est, oui, pour soutenir notre voyage à Madagascar qui est prévu en juillet, donc dans un orphelinat, comme l'a dit Marc. Et voilà. Donc merci beaucoup. À tout de suite.
Donc voilà, elles vont recevoir les inscriptions si vous voulez, mais c'est vrai qu'ils peuvent faire aussi d'autres petits services divers et variés. Donc pour en même temps rendre service et puis en même temps donc financer ce voyage humanitaire à Madagascar. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. Les diacres de notre église vont recevoir ce que nous avons mis à part dans la louange et dans la responsabilité pour que l'évangile soit annoncé dans cette bonne cité de Paris et du monde entier à travers Internet aussi.
Prions le Seigneur. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ses appels et ses consolations, ses blessures et ses guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs s'élèvent vers toi. Nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint repose sur vous et à jamais.